Oui, bonjour Daniel. Alors mon message sera trop court à mon avis, car j'aimerais en dire tellement plus sur ma révolte face aux mesures gouvernementales inadmissibles faites aux chômeurs, et j'espère que je ne suis pas la seule. J'ai du travail, moi, mais je pense aux situations dramatiques qu'elles vont entraîner. Est-ce là le dialogue avec la France d'en bas? Aussi, j'aimerais que tous les gens qui ont fait grève dernièrement se mobilisent pour soutenir tous ceux qui, eux, n'ont aucun poids pour bloquer le pays et faire de cette journée du 8 octobre une journée symbole pour dire stop à ce gouvernement qui lèse une fois de plus les plus faibles. Alors, soyons solidaires et rendez-vous tous le 8 octobre dans la rue.
Mireille de Cestas. Parler d'un possible bannissement, expulsion, assassinat d'Arafat par le gouvernement israélien est non seulement un acte terroriste, mais une nouvelle étape dans l'escalade de la violence israélienne, un coup fatal porté à la paix. Ceux qui ne veulent pas dialoguer avec Arafat ne veulent pas dialoguer avec le peuple palestinien. À l'appel de différentes organisations, samedi 27 septembre à 14h, place Gambetta à Bordeaux, Palestine 33 vous invite à venir manifester contre toutes les occupations en Irak et en Palestine. Journée internationale de mobilisation dans le monde.
Les enseignants ne se sont pas rendormis. À Vendôme, dans le Loir-et-Cher, on s'est réunis tout l'été et on a créé un groupe de réflexion et de résistance des enseignants du Vendômois, le Grève. Nous avons décidé d'organiser un forum samedi prochain, le 27 septembre, à partir de 14h dans la rue piétonne, au niveau de la poste près de la chapelle Saint-Jacques. Nous invitons tous les gens du Vendômois à venir débattre sur l'avenir de l'éducation nationale et de l'ensemble des services publics. Donc, samedi 27, à partir de 14h, rue piétonne. Merci Daniel de passer ce message et longue vie à là-bas si j'y suis. Comme diraient nos gamins, c'est trop génial. Martine, prof à Vendôme.
Message de Christian, du SFA Lorraine. 22 septembre, Nancy, congrès de l'UMP. Alors, nous avons fait une belle manif unitaire. Hein, tout s'est bien passé. Et à 19h30, le grand cri qui fait froid dans le dos. Et puis, on s'apprête à partir, calmement, comme d'habitude. Or, on discute un peu l'histoire de se remonter le moral. Par les temps qui courent, c'est difficile. Mais voilà, nos grands stratèges de l'ordre public en ont décidé autrement. Il est interdit de converser sur la place Stanislas, surtout lorsque les députés de la France PMU ont leur hôtel sur cette même place. Dans un premier temps, on amène une barrière de CRS devant nous, plantée comme des piquets. Ils attendent. Certains répondent à l'agression. Normal. Sifflets, colibés, huées. Les CRS attendent toujours, histoire de faire monter la pression. 20h passées, le deuxième temps. On renforce le dispositif, deuxième rang de CRS, des flics en civil, avec matraque dans le dos. Et on charge, et on saigne, et on interpelle, et on cogne, et on matraque. Et le tour est joué. Les députés pourront dormir sur leurs deux oreilles, dans leurs beaux draps de soie, tout à leur rêve de PMU et de la France qui gagne. Les manants et les gueux ont été chassés de leur ville.
J'ai une solution pour la France. Hein. Au lieu de creuser notre déficit en payant le prix de la dignité aux chômeurs, en fin de droit, investissons dans la construction de prisons modèles, comme aux États-Unis. Ben, on n'a qu'à enfermer les pauvres, les faire produire pour les multinationales et leurs sous-traitants. Donc ceux-ci auront l'impression de faire une bonne œuvre. Non seulement les pauvres nous coûteront plus, ne seront plus dangereux, mais en plus ils rapporteront. Les entreprises y gagneront quelques dégrèvements de charges supplémentaires. Les nantis de la sécurité, n'en parlons pas. Et la France d'en haut aura gagné un nouveau défi économique en garantissant la paix sociale. Et en plus, le petit actionnaire, dont je pourrais faire partie, pourra spéculer sur le béton. Bravo messieurs, vous avez vraiment des bonnes idées. Et on est de plus en plus écœurés, même si on ne fait pas partie de la France d'en bas, qui crève parce qu'elle n'a pas les moyens de travailler ou de vivre. Et encore, même aujourd'hui, quand on travaille, il arrive qu'on soit pauvre. C'est dingue, non ? Annie de Chartres.
Le texte qui suit a été écrit par un juif 100% juif. Comme j'ai appris que l'équipe était en Israël, j'ai appelé ça urgence. Terre d'Israël et terre d'Islam, terre chrétienne qui vit naître Jésus, terre où coule le sang innocent de femmes et d'enfants, terre d'amour et de haine, terre convoitée, terre confisquée, un peuple martyrisé, un peuple colonisé, désespoir kamikaze, bombe humaine tuant des enfants, tanks et mitrailleuses tuant des enfants, mort de Palestine, mort d'Israël, sortez de vos tombeaux et hurlez « c'est assez », dites-leur d'arrêter ce carnage pour que revienne la paix. Sur cette terre sacrée, le silence des nations est tout aussi coupable de ne pas dénoncer les crimes de l'occupant d'une terre volée dont les maisons détruites nous donnent le vertige. Le crime des nations de refuser aux uns ce qu'ils donnent aux autres. J'ai un deuxième texte que j'ai appelé « Jérusalem ». Ô Jérusalem, ville mythique, où tous les dieux tiennent boutique, Dieu d'Israël et Dieu d'Islam, où de la vide dansent les flammes, où un Jésus en croix mourut, tant de croyants y ont couru. Ville d'histoire sainte de gloire, ville confisquée, tant dérisoire, un peuple exclu, un autre maître, au couvre-feu faut se soumettre, de liberté faut se démettre, pourquoi faut-il que les victimes d'avant-hier commettent les crimes commis jadis par leurs bourreaux, en se prenant pour libéraux. Shalom, salam, pax, paix, là, maintenant, tout de suite. Et qu'on vienne pas me traiter d'antisémite, étant juif moi-même à 100%. Amitié à tous.
Ah, ce serait formidable si c'était toujours comme ça. Mais c'est loin, loin, loin de la réalité, ce que, à en croire au moins ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire la barrière de sécurité. La barrière de sécurité entre quoi et quoi? Entre Israël et puis quoi d'autre? Entre les territoires, c'est pas bien sûr. On se demande comment on va appeler cette série de reportages, comment on va intituler ce carnet de route que nous sommes en train de parcourir en Israël pour l'instant. On se demande si on va intituler la série « Israël, droit dans le mur » ou bien « Palestine, peau de chagrin ». Parce que c'est quand même à ça que ça ressemble, ce mur est prolongé par cette barrière de sécurité qui cerne toute la Cisjordanie, mais en empiétant sur le territoire de la Cisjordanie, ce qui fait que le village où nous sommes actuellement, je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux, l'appel à la prière là-bas au loin, et puis les coqs et les poules, eh bien la moitié de ce village a été coupée, c'est-à-dire que les paysans d'ici ne peuvent plus accéder à leurs champs, ne peuvent plus accéder à leurs oliviers. C'est quelque chose d'absolument monstrueux. Mais bon, il y a quand même ici dans cette maison, je suis une petite fille, je lui ai dit « Comment tu t'appelles ? What's your name ?» Elle m'a dit « My name is Palestine. » Alors voilà, si les enfants s'appellent Palestine, « What's your name, you ?»
Hassan.
Hassan ? Tu t'appelles Hassan ? Voilà, ça c'est Hassan, c'est le frère de Palestine. Et alors voilà, pourquoi Hassan et pourquoi Palestine? Parce qu'aujourd'hui c'est mercredi, en France au moins, c'est le jour des enfants. Et le jour des enfants, on a retrouvé de derrière les fagots de là-bas si j'y suis, des contes pour les petits-enfants, des contes que j'avais écrits il y a bien longtemps. Donc voilà, aujourd'hui, une nouvelle diffusion de ces contes. Auparavant, d'autres messages, vous avez été très nombreux à réagir sur l'émission d'hier, sur la question de la pulsion au meurtre. J'ai écouté tous ces messages très attentivement, c'est passionnant vos réactions, puis troublant aussi évidemment. Voilà, donc autre message, mais alors je vais vous dire une chose quand même aujourd'hui, c'est que après ces messages, si jamais vous entendez un morceau de musique, une sorte de chœur, disons, c'est pas tout à fait de la musique, c'est un chœur, qui interpréterait, il faut parler encore au conditionnel, qui interpréterait donc un chant intitulé « Le chant des courtisans », eh bien, sachez que ce sont des intermittents du spectacle qui prendraient, il faut toujours parler au conditionnel, les auditeurs de la basse si j'y suis en otage. Rien n'est sûr pour l'instant. Les messages d'abord et après.
Bonjour tout le monde, je suis en train d'écouter l'émission sur qui a déjà eu envie de tuer quelqu'un. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a furieusement traversé l'esprit à plusieurs reprises, des envies pulsionnelles très fortes. Mais j'en rigole après, mais sur le coup c'est vrai. Tuer avec un flingue, parce que j'ai toujours voulu manipuler une arme, mais c'est quelque chose d'un petit peu tabou. Mais oui, vraiment, envie de tuer quelqu'un, avec une arme et tiré plusieurs fois pour voir comment ça fait dans la peau, pour voir.
Moi, j'ai eu envie de tuer, mais vraiment de tuer. Le drame passionnel. Je suis étonnée d'ailleurs qu'ils disent qu'il n'y en ait que très peu maintenant. Il y en a toujours. Et pourtant, je suis très âgée. Il y a plus de 50 ans que je suis mariée et j'ai toujours ce que j'appelle cette pulsion de faire disparaître cet homme qui m'a fait tant de mal. Alors, appelons cela plutôt de la haine, si vous voulez bien. Mais ça, c'est souffrir. Je ne suis pas passée à l'acte. Je n'y passerai pas. En raison de mes enfants, pour mes enfants et mes petits-enfants aussi, jamais je n'y passerai, il fera ce qu'il voudra cet homme, il mourra de sa belle mort, comme on dit. Mais moi, j'avais tout préparé, et c'était pas difficile, un simple petit revolver, et c'est tellement propre, c'est tellement facile, voyez que j'ai eu la pulsion de le faire. Et si j'avais pas eu mes enfants qui nous ont sauvé la vie à tous les deux, eh bien, je me tuais après, évidemment, parce que je ne voulais pas connaître la prison, loin de là, et pourtant. Ça aurait été drame passionnel, car lorsque les avocats auraient su tout ce qu'ils m'avaient fait, j'aurais été graciée. J'en suis certaine, il y avait les enfants. Et je le hais. Voilà. J'ai toujours cette pulsion. J'en ai parlé à mes médecins qui m'ont dit c'est normal. Parce qu'il vous en a tellement fait que c'est normal. C'est lui qui est un malade, ce n'est pas vous. Voilà, je voulais vous le dire.
Salut à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. Voilà, je suis en train d'écouter l'émission là de ce soir sur les envies de meurtre. Et en fait, c'est assez drôle. Enfin, je sais pas si c'est très drôle. J'étais en train de faire une tarte aux pommes en même temps. Et à un moment, j'ai levé la tête. Et j'ai vu que mes mâchoires étaient serrées. J'avais une espèce de... Je croyais que c'était une densité, une productivité... par rapport au nombre de pommes, et en fait, je me suis aperçu que c'était pas ça. J'étais drôlement énervé sur ces pauvres pommes. Voilà, c'est Aurélien, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.
Voilà, monsieur, c'était simplement pour vous dire que j'ai été scandalisé par cette émission d'aujourd'hui. On demande aux gens, est-ce que vous avez voulu tuer quelqu'un? Est-ce que vous voulez tuer quelqu'un? Mais enfin, vous trouvez qu'il n'y a déjà pas assez de violence quand il faire... faire des réflexions là-dessus, il y a des gosses qui disent « Oui, c'est mon père, mon grand, j'ai envie de le tuer. » Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette... Alors j'ai été scandalisé et je voulais vous le dire. Voilà, je laisse pas mes coordonnées, c'est pas la peine. Mais je suis vraiment navré de voir que ça en arrive là. Enfin, il y a d'autres sujets que... Et avec tous les déséquilibrés qu'il y a, moi je sais pas. Franchement, je suis scandalisé.
Je tue. Tu tues. Il et elle tuent. Nous tuons. Vous tuez. Il et elle tuent. Le temps. Tout simplement, le temps. C'est déjà beaucoup, le temps. Mais est-ce suffisant? Roman Imanov, 3200 rapports avec Jésus-Christ.
Salut Mermet. Raffarin, il exagère, hein. Nous les chômeurs et les RMistes, il nous prend même pas pour des dindons, parce qu'avec les vieux dindons, on fait de la farce. Alors que là, on est bon plus à rien. Je crois que en fait, on est que des couillons. C'est tout. Voilà, salut.
Raffarin. En raison de la grève d'une certaine catégorie du personnel, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels. Et c'est tant mieux.
Il n'y a aucune bataille perdue. Et si même il y a du désespoir, encore qu'il ne soit pas politique, ce mot, je dirais, avec Pasolini, il y a de la vitalité désespérée.
Tira quand on tue le vouloir des patrons dans nos caisses, dans nos caisses. Tira quand on tue les cuissons des pros. Qu'on agresse, qu'on agresse. Aux pieds enseignants, ouvriers intermittents, c'est l'alarme, c'est l'alarme. Ce soir, ces pouilleux connaîtront le prix du sang et des larmes. Roulez limousine, flambez à la corbeille, camarades. Foutez sur la paille le petit, sa marmaille, la mitraille, la mitraille. Oh, et les trailers, c'est bien le son du canon. Vendez vite, vendez vite. Oh, et l'initié, le tuyau n'est pas crevé. Faut acheter. C'est nous qui soudons les barreaux des prisons pour la plèbe, pour la plèbe. Salvons à vos trousses les perverses qui vous poussent la misère, la misère. Et dans ce pays, le président est un pote, la corruption. Ici, nous vois-tu, on arrête, on en bastille, on bâillonne. Ici, chacun fait comme il veut, où il veut, quand il passe. Ami, si tu tombes juste sans de long, c'est la grâce. Demain, du sang neuf remplira les fonds de pension, dividende. Prenez compagnon, sans ennui, la liberté est à vendre. Raffarin, Raffarin, Raffarin.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. De belles histoires pour les petits-enfants de là-bas.
Flight number 2, arriving from...
De l'enfance est-il aussi merveilleux que ça? C'est ce qui va être mis en doute jusqu'à 18h sur France Inter. De belles histoires pour les petits-enfants.
Tout petit, ou qu'a grandi, et quand tout le monde, qu'est pas on l'envie, qui te paye, ou est plus loin, qui ça qui nous, qui mieux qu'ici, et même si, m'en conseiller, et même si, m'en raisonner, ou qu'est parti, car le destin, c'est de ne pas croire sa mon gâteau. Mais avant parti, bien rappeler ceci, que c'est ton pays qui est le plus joli. Thank you. pas oublier de emporter assez d'argent pour acheter 1000 mouchoirs. On peut pleurer si vous comptez un jour trouver sous les cieux un coin qui mieux moi des bons dieux avant trop vieux. Si tu peux faire tes adieux, car c'est ton pays qui est le plus joli. Car c'est ton pays qui est le plus joli.
Le chat est le plus...
Il était une fois un bien étrange chat. Une fois, il était noir. Une fois, il était bleu. Une fois, il était gris. On savait pas trop à quoi s'en tenir avec lui. Et en plus de ça, ce chat avait des yeux bien curieux. L'un était en or et l'autre en argent. Un chat vraiment extravagant. Or, la même fois, il y avait un perroquet. Un perroquet modeste, sans rien d'étonnant, le même imperméable, la même cravate, la même moustache que tous les autres perroquets. Et voilà qu'un beau jour, le chat, ce chat exagérant, téléphone au perroquet. « Venez dîner ce soir chez moi !» Et le perroquet, très courtois, a dit « Oui, je vous remercie !» Et il se met en route avec ses beaux habits. Mais sur la table, déception. Il n'y a qu'une arête de poisson. « Mangez, mangez, voyons, mon cher ami, vous n'avez guère d'appétit !» disait le chat noir, ou bien bleu, ou bien gris, en souriant de toutes ses dents à son ami. Le perroquet, sourire petit, n'osait rien dire, et sans manger, s'en est retourné en remerciant pour le dîner. Le menu l'avait sans doute un peu déçu, mais sans rancune aucune, notre perroquet, très courtois, à son tour, invita le chat. C'était un très grand dîner. Il y avait pour commencer 12 brochettes de souris grillées. Slip, slop et gobidabidé. Le chat, d'un coup, a tout mangé. Après quoi, il y avait 18 saucisses de Francfort, 4 jambons de Paramé, un bœuf entier et quelques porcs. Slip, slop et gobidabidé. Hop, le chat a tout avalé. Il y avait pour faire bombance les plus fins des vins de France et du champagne, bien entendu. Slip, slop et gobidabidu, le chat en rotant a tout bu. Tout ça m'a mis en appétit, dit-il debout sur la table, engloutissant une montagne de desserts, de nouilles et de crème chantilly. J'oserais même vous demander si nous allons bientôt manger. Le perroquet, qui n'avait pas absorbé la plus petite miette, dit c'est-à-dire je n'avais pas prévu. Alors, sans le moindre respect pour les lois de l'hospitalité, le chat, slip, slop, gobidabida, le chat dévora le modeste et poli petit perroquet, slip, slop et gobidabida. Et là-dessus, il partit par les rues. Un peu noir, un peu gris, un peu bleu, avec ce regard, comme je disais en commençant, un œil en or, l'autre en argent. Il sifflotait en marchant, mais malgré le bruit de la rue, on entendait distinctement dans son ventre le pauvre perroquet qui appelait au secours. « Quel drôle de chat !» dit un chien qui passait. « Il répète comme un perroquet. »« Viens le dire ici si t'es un homme !» Slip, slop, gobidabidum. Quand le chien s'approcha, le chat l'avala. « Où est mon chien ?» dit un enfant. « Je vais t'aider à le retrouver !» dit le chat en le dévorant. « Mon enfant !» pleurait la maman, et hop, avec un rire amer, le chat avale la pauvre mère. Et ainsi de suite, slip-slop-gobidabivite, slip-slop-gobidabidu, le chat a mangé tous les gens de la rue. Dans les rues avoisinantes, les pauvres gens chez eux s'étaient cachés, mais slip-slop-gobidabidon, sans faire les présentations, le chat a tout mangé, y compris les maisons. À peine une minute plus tard, il avait mangé les boulevards. Le temps de compter jusqu'à 10, il avalait notre obélisque. À 12, il avait mangé tout le Louvre. À 16, c'était le Père Lachaise. À 20, c'était le Quartier Latin, la Seine, avec les péniches, Montmartre avec les Angliches, Notre-Dame, les Champs-Élysées, et même, et oui, la Tour Eiffel, pourtant si dure à digérer pour quelqu'un de bien entraîné. Le temps de compter jusqu'à 100, il avalait le grand lit blanc où dormait notre président avec sa charmante épouse qui sourit si gentiment. Et même les policiers qui jouaient sous le lit à la bataille payante se retrouvèrent dans le ventre de ce chat-là, tantôt noir, tantôt bleu, tantôt gris, comme je crois vous l'avoir dit, avec ses yeux surprenants l'un en or et l'autre en argent. Et c'est ainsi qu'en moins d'une nuit, il avala tout le pays. Le matin, très assoiffé, il but la Méditerranée. Avec les bateaux, d'une seule traite, d'un seul coup, on vit disparaître l'Afrique, la Russie et l'Orient, les montagnes et les éléphants. Et comme c'était l'heure de déjeuner, il a mangé ce qui restait, slip, slop et gobidabidé. Et alors, enfin repu, il est allé faire une petite sieste. Mais comme il avait tout mangé, dans son ventre, tout le monde s'est retrouvé. Le monde entier. Et petit à petit, on a tout réparé, on a tout remis dans l'ordre, c'est-à-dire dans le désordre du monde, mais on n'a jamais trouvé la solution pour sortir du chat en question. Eh oui, depuis ce temps-là, la terre tourne à l'intérieur d'un chat. Quand il est bleu, le ciel est bleu, quand il est gris, le ciel est gris, quand il est noir, c'est la nuit. Son œil en argent, c'est la lune. Le soleil, c'est son œil d'or. Et quand on voit des parapluies, c'est le perroquet qui fait pipi.
J-Lo, chicken rhythm. J-Lo, chicken rhythm. Tuk 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 J-Lo, chicken rhythm. Tuk 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 J-Lo, chicken rhythm. When that rooster starts to crow, grab your partner on your way. Then you move out on the floor, 'cause it won't be long for the break of day. Tuk 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 J-Lo, chicken rhythm. Tuk 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 J-Lo, chicken rhythm, blowing on out there for the J-J-J.
Monsieur C.
Au pays de l'alphabet, où les lettres sont des êtres, Monsieur C devenait minuscule.
plus personne ne voulait de lui. Toujours occupé à l'abaisser, son voisin, Monsieur D, le trouvait ridicule. Je le voyais très rarement, à part dans les enterrements, quand quelqu'un était décédé. De l'autre côté du palier vivait la belle Madame B. Sans cesse en silence, C rêvait de ses boucles, ses pleins et ses déliés. Même en majuscule, elle n'était pas trop ronde comme Madame O ou trop frêle comme Madame L. Il rêvait d'elle, surtout la nuit, avec des bottes D, Q, I, R, sur un cheval qui N, I. Mais C était trop coincé. Il voulut lui envoyer une lettre, mais il ne sut jamais laquelle. Un soir, qu'il rêvait encore dans la rue des conjugaisons, il la vit passer, enlacée au bras de A. « Eh oui, lui dit une voix, B-A-B-A, tout le monde sait ça. Ils sont attachés depuis toujours, il n'y a que toi pour ignorer ça, présomptueux petit C. » C'était bien sûr la voix de D. Le cœur brisé, Monsieur C se mit à en vouloir au porte-plume qui l'avait engendré. Il traînait dans les marges, il voulait s'abréger. Mais, un soir dans un bar, il rencontre le K. Un ami à lui, qui le remplace parfois dans les mots des langues lointaines où les Kanaks vont en kayak et les Kakis boivent le kawa. « Mon cher ami, dit Monsieur K, allez donc voir Monsieur E. Il pourra vous aider. Il a tellement de succès dans les dictionnaires de français. » C alla voir E, célèbre pour ses casquettes aiguës et ses bérets graves. Mais on lui dit qu'il était dans l'eau, on lui dit qu'il était muet, et Monsieur C s'en retourna. Chemin faisant, il croise Y, le philosophe. « Pourriez-vous m'aider ?» demande C. « Circule, virgule, ou je t'apostrophe !» lui dit le savant courroucé. Et C va par les rues de plus en plus courbées. En passant, il donne machinalement un coup de poing sur un I qui pourtant ne lui avait absolument rien dit. C'est assez. C'est assez. J'ai besoin de ma R.E. Mais un soir, alors qu'il errait dans les forêts de l'alphabet, en passant près d'une rivière, il entend chanter un air. M, M, il faut aimer. M, M, tu seras aimé. En écartant un peu les branches, Monsieur C voit Mademoiselle U, qui dans l'eau nage toute nue. Elle a toute ôté, tant L-H-O. C fut frappé par la beauté du. C'est elle, se dit-il, c'est elle. Il court se mettre en majuscule, il chausse sa plus belle cédille. C'est elle, il croit ses amis. L-O, lui dit Hervé, tu es plein d'énergie. L-O, lui dit L-N, qui fait ses H-A, car elle a K-C, sa Q-I-R-A-T. Tu es tout énervé. Mais sans écouter, il court, et enfin il s'arrête, tout boule R-C-E. Il tombe au pied de la lettre. Depuis longtemps, je vous cherchais. J'ai traversé tout l'alphabet, et c'était bien monotone. Ah, je vous aime, jolie voyelle. Nous sommes faits sur le même modèle pour quelqu'un qui s'est dessiné. 13 M-U, U, ne sait plus où se mettre. Je reçois tellement de lettres. Elle était employée dans un ordinateur. Le soir même, à 5 heures tapantes, il se retrouvait derrière l'imprimante. Et voilà qu'à son tour, juste avant le premier baiser, U entendit l'air enchanté. M, M, il faut aimer. M, M, tu seras aimé. Alors, comme une parenthèse, le cœur du s'ouvre assez pour laisser passer C. Bien vite, le bruit se répandit et chacun sortit de sa boîte aux lettres afin de composer des mots et des phrases au hasard qui montèrent dans un autocar pour aller à la noce qui eut lieu dans l'Aisne. La petite U était très belle, avec son chapeau circonflexe et sa robe en calligraphie. Faute d'orthographe et photographe, tout le monde était invité. À la sortie de la mairie, on donna des coups de klaxon qui faisaient des points d'exclamation. une petite virgule se ferma, une grosse parenthèse sur les doigts, mais bien vite on la consola. « Ouvrez les guillemets !» dit le A. Alors, la fête commença. Les 10 chiffres invités arrivèrent en premier, à part le numéro 3 qui s'était perdu dans les bois. Chacun sur son 31 s'était mis en 4. On put voir le numéro 6, qui mangeait beaucoup de saucisses. Il y avait les frères 7, 8, 9, tout contents dans leurs habits neufs. Il y avait des caractères venus des quatre coins de la terre, des Russes, des Arabes, des Chinois qu'on ne comprenait vraiment pas, venus d'Éthiopie, d'Arménie, hiéroglyphes et graffitis dans des robes de gala. Le cousin W, venu d'Angleterre, mangea du H.I. à la petite Q.R. L'inconnu Monsieur X fit une apparition en jetant sur la table de façon regrettable quelques mystérieux points d'interrogation. Il y avait un tiret qui avait bu un coup de trop, il voyait double et savait pas s'il parlait à un point ou à un tréma. Et pour faire rigoler la noce, tonton Y faisait le Z. Enfin, pour mettre un point final à la fête, il y eut un grand bal, et toutes les lettres dansèrent au son d'un vieil abécédaire. Les mariés, pour leur lune de miel, partirent 8 jours en italique. Puis, à Paris, ils logèrent chez le G, pas très loin de la tour Eiffel, dans un petit livre en carton. Pour ne pas faire d'indiscrétion, arrêtons ici cette histoire avec des points de suspension. C'était l'histoire de Monsieur C, qui épousa Mademoiselle U. La dernière fois que je les ai vus, ils attendaient un petit cul.
Et bop-lul, she's my baby. Et bop-lul, I don't mean maybe. Biba Lula, she's my baby. Biba Lula, I don't mean maybe. Biba Lula, she's my baby. Love my baby, love my baby, love. She's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all the things. She's the one that I know. She's the one that loves me so. Viva Lula, she's baby love, baby love.
Ha ha ha!
Alors, on continue. Chers petits enfants, chères petites têtes blondes et innocentes, aujourd'hui, des histoires uniquement pour vous dans la base si j'y suis jusqu'à 18h sur France Inter. Voici l'histoire de Gustave Faublère.
La base si j'y suis.
Imaginez un nez avec deux bras de chaque côté, un nez avec deux yeux tout rapprochés, un nez avec en dessous deux jambes et deux pieds. C'est le nez de celui qu'on a surnommé Gustave Faublère. Son nez, qui traîne par terre, ça fait bien rigoler. Partout on se moque de lui, partout on le montre du nez. Dis, ta mère s'appelait pas Cléopâtre et ton père s'était pas Cyrané. Eh, c'est vrai que l'année où t'es né, t'étais le plus gros nouveau-né. Les enfants lui jettent des pierres. Tu devrais le mettre dans une charrette, ce serait moins lourd à porter. Et Gustave sent la moutarde qui lui monte au nez. Et cette moutarde, ça le fait pleurer. Et ses larmes, ça le fait renifler. Et quand il renifle, ça fait comme le tonnerre. Et tout le monde, même sa mère, se sauve effrayé avec la police et les pompiers. C'est que, s'il se mettait à éternuer, ça ferait encore une tempête qui emporterait tout le quartier. Seul, assis au bord du trottoir, Gustave sort son mouchoir qui est grand comme un drap. Pendant des heures, il reste là, nez au vent, car heureusement, pour le consoler, il y a les odeurs. Surtout le soir, surtout en juin, surtout après la pluie quand les odeurs sortent de leur coquille. Il met son nez au balcon et elles viennent danser et fredonner comme des amies, juste pour lui. Des odeurs qui viennent de loin. Le parfum d'une goutte de bière sur la lèvre d'une rousse amoureuse à Dublin. L'encre d'une lettre d'un vieil ami qui vient d'avoir un fils quelque part au Chili en descendant la cordillère. Des parfums que vous ne pouvez pas imaginer si vous n'avez pas un gros nez. Raffiné, effréné, satiné, vallonné. Et même l'odeur de papier brûlé des étoiles filantes qu'on voit tomber dans la mer en été. Et même l'odeur du passé. L'odeur du café dans la cafetière quand Napoléon était énervé. Un poil de chat sur la cuisse de la reine de Saba affalé dans ses falbalas. Et même, il sentait le parfum des bruits. Il flairait la musique au lieu de l'écouter. Cette musique, c'est des pétales au pied d'un lit. Cette mélodie, c'est la chevelure de ma mère où je m'endormais tout petit. Avec son gros nez, il sentait même l'odeur d'un regard, quand on le regardait. L'odeur d'un sourire, quand on lui souriait. Le parfum de l'amour, quand... Le parfum de l'amour, mais personne ne l'aimait. Quand il se réveillait, il sentait sous son nez les difficiles pépins de la réalité. La vie qui recommençait à tourner comme une salvage autour de son nez, qui avait encore grandi, grandi, grandi encore pendant la nuit. On raconte qu'il avait tenté de travailler dans une fabrique de parfums, mais les produits chimiques lui donnaient des boutons. Il avait été aussi clown dans un cirque, mais il fallait tellement de rouge pour lui faire un nez rouge, on n'en avait jamais assez. Même les militaires l'ont poussé à faire la guerre. Avec ton nez comme un canon, tu n'as qu'à éternuer. Ça me retombera sur le nez, répondait Gustave Faublère. Un beau jour, quand même, il tombe nez à nez avec une jolie demoiselle. Jolie, oui, avec un nez à peu près comme le sien, peut-être légèrement plus fin. Elle s'appelait Dulcinée, et Gustave l'invita à dîner. Entre eux, tout fut instantané. Mais, quand le bec enfariné, il voulut l'embrasser, ce fut impossible, son nez l'a gêné. Même dans les positions les plus effrénées, il y avait toujours ces satanés nez. À la fin, vexé, Dulcinée est parti sans se retourner, et le cœur tout désordonné, il vit s'éloigner son amour mort-né. Dans le noir, il ne sait pas quoi faire. Gustave, il s'assoit par terre. Il met les doigts dans son nez. Il met ses doigts. Et soudain, il met aussi sa main, et son bras, et son pied, et sa cuisse, et sa casquette, tout,
Tout est rentré dans son nez. Tout, son corps tout entier. Il ne manquait plus que son nez. Alors, il a fait aussi rentrer son nez pour qu'il soit à l'abri de la pluie, de la poussière et des cruautés de la vie. Et dans cette rue, j'ai vu disparaître de ma vue Gustave Faublère et son nez, qui fut le plus gros de la terre. L'histoire suivante, c'est une histoire, les petits enfants, c'est une histoire de géant. Mais je voudrais parler un petit peu des géants, parce que vous savez, avant d'être grands, les géants sont petits, comme tout le monde. Ils commencent par être des petits enfants géants, d'accord, bien plus gros et bien plus grands que les petits enfants qui ne sont pas des enfants de géants, d'accord, mais par rapport à des géants, les enfants géants sont de petits géants. Et chez les géants, vous avez toutes sortes de tailles, tout comme chez les gens qui ne sont pas géants. Chez les gens qui ne sont pas géants, vous avez des grands, des moyens et des petits. Chez les géants, c'est pareil. Vous rencontrez de grands géants, des géants moyens et des petits géants qui parfois ne sont pas plus grands que des petits nains. Enfin, disons que des grands nains. Parce que chez les nains, c'est pareil. D'accord, ils sont plus petits que les gens qui ne sont pas nains, mais tout comme chez les géants et tout comme chez les gens qui ne sont ni des nains ni des géants, vous avez des petits nains, des nains moyens et des grands nains. Des grands nains qu'on peut parfois confondre avec de petits géants ou même avec des gens moyens comme vous et moi. D'ailleurs, il y a des gens moyens comme vous et moi qui, en réalité, sont de petits géants. Ou de grands nains, même s'ils ne le savent pas. Alors pensez-y, dans la rue, à l'école, à la maison, et vous ne verrez plus les géants de la même façon, ni les nains, ni les gens moyens. Ça vous fera une belle jambe, et même deux, pour courir découvrir le monde peuplé de gens si curieux.
Les petits géants exagèrent énormément.
Eh ben moi, mon père, il est plus fort que ton père.
Eh ben moi, mon père, il est plus fort que ton père.
On entend ça souvent à la récré entre les enfants. Eh ben moi, mon père, il est plus fort. Eh ben moi, mon père, il est plus grand.
Eh ben moi, mon père, il est plus grand.
Tu exagères, disait ma mère. Ton père n'est pas un géant.
Eh ben moi, mon père, il est plus fort.
Et c'est dommage.
C'est dommage.
Je me disais. Et je demandais à ma mère.
Qu'est-ce qu'ils se disent, les enfants géants, quand ils parlent de leur père?
Les petits enfants exagèrent, mais les petits enfants géants exagèrent énormément, répondait maman. C'était au temps, il y avait encore des géants à Paris. Aujourd'hui, on ne croirait pas, mais autrefois, des géants dans les rues, on en voyait très souvent. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent que je mens. Une fois, pour voir, je suis monté sur le toit. Je me suis fait tout petit et caché derrière une cheminée, j'ai écouté ce que se racontaient les petits enfants géants. « Eh ben moi, mon père, disait l'un des enfants géants, mon père, il est tellement fort et tellement grand qu'un jour, à la chasse, il a tué 32 vaches. Mais il était embêté, il n'avait pas de sac pour les rapporter. Alors vite, il se retourne à la maison, il revient 3 minutes plus tard, mais plus rien, plus une seule vache. Il cherche partout, il cherche sous les feuilles, sous les montagnes, et tu sais quoi ? C'est son chien qui avait tout mangé. Eh ben moi, mon père, dit un autre enfant géant, les vaches, il les mange en brochette, avec quelques oignons et quelques cochons, ça fait un goûter délicieux, presque aussi bon que les éléphants à la crème.
Eh ben moi, mon père, il est tellement grand, tellement fort, que les poteaux télégraphiques, ils s'en fait des cure-dents.
Eh ben moi, mon père, il est tellement fort et grand, que quand il plonge dans la mer, ça fait des vagues jusqu'en Angleterre.
Et tout en parlant, les enfants géants jouaient avec les péniches qui voguaient sur la Seine. D'un doigt, ils les poussaient jusqu'à Rouen, ou bien ils jouaient au train électrique avec la gare du Nord. Paris, c'est un joli coffre à jouets pour les petits géants.
Attendez-moi, j'ai fait tomber un autobus dans ma botte de 7 lieues.
Pour l'attendre, les autres se sont assis sur les toits. Pour passer le temps, ils attrapaient des avions qui passaient dans le ciel, ou bien ils soufflaient sur les nuages, et le soleil revenait, et ils poursuivaient leur conversation.
Eh ben moi, mon père, une fois dans la forêt, il y avait un arbre tellement gros et tellement grand qu'il fallait 3 jours pour en faire le tour, 3 jours en courant. Il fallait une grue pour enlever chaque feuille morte, et quand un gland vous tombait sur la tête, il fallait 2 jours pour vous déterrer. Alors mon père est arrivé. Il a remonté ses manches de géant et d'un seul coup, il a déraciné le grand chêne et du deuxième coup, il a pris son élan et l'a jeté très loin dans le pays voisin.
Alors, le dernier petit géant qui n'avait encore rien dit, a dit.
Eh ben moi, ma mère.
Elle est tellement forte et tellement grande qu'un jour, elle a pris une marmite, une grande marmite, pour se faire un dé à coudre, pour recoudre ma culotte que j'avais déchirée en jouant avec la tour Eiffel. Elle était en train de coudre tranquillement, mais soudain, ouh, voilà une poussière qui lui tombe dans l'œil. Ma mère, ça la faisait pleurer, et pour vous donner une idée, chaque larme qui coulait, chaque larme qui tombait par terre, ça faisait un étang avec des canards et des poissons et des sous-marins et des baleines dedans. Quand même, au bout d'un moment, de son sac à main, ma mère a sorti son armoire à glace, et délicatement, elle a enlevé la poussière qu'elle avait dans l'œil. Et vous savez ce que c'était, cette poussière de rien du tout? C'était un arbre. Et plus précisément, c'était le grand chêne que ton père avait lancé depuis le pays d'à côté. Là, quand même, les autres enfants étaient un peu étonnés. « Tu exagères », a dit un des autres enfants géants. Et j'ai repensé à ce qu'avait dit ma mère.
« Les enfants exagèrent, mais les enfants des géants exagèrent énormément. »
C'était La Basse, si j'y suis, de Daniel Mermet. Merci à la chorale des intermittents de Metz que vous retrouverez sur le site Ozart, etc. en un mot-lor.com. Et saluons Maud et Garance pour leur jeune collaboration. À la technique ce soir, Olivier Riotor et Olivier Leroux. Réalisation Antoine Chao, assisté de Joël Levert et Coyenne Guyen. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez le répondeur de La Basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Vous avez le fax, 01 56 40 41 0. Ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com.